Bonjour, donc Alain Mouchet, accompagnateur en montagne retraité. Et effectivement, je viens du Briançonnais, d'un petit village qui s'appelle Lévigneaux. Alors, pourquoi est-ce que je me suis rentré dans cette grande aventure? Eh bien, c'est un peu par des contacts entre confrères accompagnateurs qui étaient à ce moment-là plus engagés que moi. Bon, moi j'étais très actif professionnellement, donc pas très disponible. Et à partir du moment où j'étais en retraite, bah, effectivement, on m'a sollicité pour organiser les maraudes sur le col de l'Échelle, entre autres, dès le mois de janvier 2016. Ensuite, on a terminé ces maraudes en hiver, c'est-à-dire qu'on n'intervient que quand il y a de la neige ou qu'il fasse très très froid. Après, ces maraudes ont repris donc cette année 2017-2018 et on gère ça à trois maintenant, puisqu'on a deux secteurs de maraudes. Et on est deux à gérer surtout les maraudes du col de l'Échelle. Alors pourquoi cet engagement? Eh bien, oui, tout simplement parce qu'on ne peut pas laisser des personnes en difficulté, dans des conditions difficiles l'hiver avec la neige, des personnes qui sont très mal équipées, qui ne sont pas du tout habituées au froid, qui ne savent pas ce qu'est la neige. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons décidé, aussi suite à l'accident d'un jeune, de Mamadou, qui a eu les deux pieds gelés, et puis de son copain qui a eu les deux mains gelées, ils ont été amputés tous les deux. Donc c'est quand même assez dramatique, des jeunes qui ont 25-28 ans, de se retrouver pour un sans pied, pour l'autre quasiment sans main. Voilà, on ne voulait pas que ça se reproduise, d'où notre implication et notre volonté, véritable volonté, d'aider ces gens quand ils arrivent en France.
Et là, vous avez aussi organisé on a vu une cordée solidaire le 17 décembre, c'est ça?
Alors oui, le 17 décembre a été organisée une cordée solidaire. Donc, ce sont les professionnels de la montagne qui ont décidé de sensibiliser le public, les médias, les élus à la difficulté de passer un col l'hiver en période enneigée. Et d'ailleurs, ce jour-là, on a eu une intervention du secours en montagne car une personne était coincée au pied du col dans des conditions assez difficiles.
Et alors comment vous intervenez quand vous partez à plusieurs, comment se déroulent ces opérations?
Alors, en fait, tous les soirs, nous avons une équipe de deux personnes sur le col de l'Échelle et une équipe de deux ou trois personnes sur le col du Mont-Genèvre. Le col du Mont-Genèvre, l'accès se fait en voiture, hein, c'est beaucoup moins technique. Au col de l'Échelle, on part le soir grossièrement à la tombée de la nuit. Donc là, en période de nuit longue, comme en ce moment, on part vers 18h30 et on va jusqu'à un point que nous, on appelle les tunnels, parce qu'en fait, il y a deux tunnels qui sont là, on ne descend pas plus bas. Et on attend jusqu'à 22h, 22h30, ça dépend si on entend du monde, si on voit des lampes frontales qui montent. Voilà, on attend. Et puis après, ben, si on n'a personne, ben, on rentre. Donc, ça nous fait un retour vers à peu près minuit aux voitures.
Est-ce que c'est proche de la frontière italienne ou comment vous choisissez le point où vous allez aller voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide?
Alors, géographiquement, il faut savoir qu'on a le col le plus bas des Alpes, qui est le col du Mont-Genèvre. Donc, qui lui passe en voiture et est ouvert à la circulation toute l'année. Et puis, il y a un autre col qui est encore plus bas, mais qui est peu connu, qui est donc le col de l'Échelle, qui est carrossable hors période de neige, puisqu'il n'est pas déneigé, et qui donne sur une petite ville qui s'appelle Bardonecchia, qui est en Italie. Et donc, la frontière est au fond de la vallée, suite au partage. C'est plus une frontière de crête comme c'était, on va dire, après le traité d'Utrecht, par exemple, mais c'est une frontière qui a été modifiée par le traité de Versailles de 1947, où la frontière a été descendue au fond de la vallée. Donc, ce qui fait que toute la partie côté italien, qui est la partie la plus raide, la plus difficile, la plus dangereuse, est en France, mais regarde l'Italie, et géographiquement, est quasiment en Italie. Donc nous, on ne va pas en Italie. Au contraire, on est en train d'essayer de trouver des moyens pour les empêcher de passer au col, parce que ce col est vraiment trop dangereux. Nous, on engage à peu près une soixantaine de personnes. Tous les soirs, on a deux personnes. Il faut savoir que quand il y a nécessité de faire intervenir les secours, on prévient les CRS de montagne ou le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui peuvent s'engager sur des opérations qui peuvent être très délicates, voire dangereuses. Donc, nous, on ne souhaite absolument pas qu'il y ait d'accident. On ne souhaite pas non plus qu'il y ait des migrants qui se retrouvent dans des situations dramatiques. Donc, le mieux, c'est de les empêcher de monter. Mais on a énormément de mal à trouver une solution pour arriver à leur faire comprendre que ce passage est vraiment trop dangereux l'hiver.
Voilà. Et vous avez, vous pouvez nous raconter un peu une opération où, voilà, où vous avez peut-être repéré quelqu'un, où vous avez reçu un appel, et comment ça s'est passé pour cette personne, et vous, comment vous avez pu lui apporter de l'aide?
Donc, nous ne sommes pas en contact avec les migrants, contact téléphonique ou autre, hein, on n'est pas en contact. Donc nous, on attend, il y a des gens qui passent, il n'y a pas des gens qui passent. Bon, la dernière fois, je suis allé en maraude, je suis allé avec ma femme, et on a rencontré 4 personnes, dont un que j'ai ramené à l'hôpital aux urgences, qui avait 2 doigts de la main gauche en partie, enfin, la première phalange qui commençait à être gelée, et les 2 pouces des pieds qui étaient aussi, qui commençaient à être gelés. Bon, c'était pas des gelures très graves, mais on ne les aurait pas récupérés, ils avaient encore 20 de kilomètres à faire. Je pense que ce garçon aurait vraiment eu des lésions très très sérieuses. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, en général, la première chose qu'ils nous demandent, c'est à boire. Ils sont extrêmement déshydratés parce qu'ils ne pensent pas qu'on puisse avoir soif avec autant de neige autour de soi. Donc on a un problème de déshydratation, on a des problèmes de gelure et puis on a des problèmes de mauvais vêtements. Ils ont, en général, ils n'ont pas de gants, ils ont 3, 4, 5 couches de vêtements mais qui n'ont aucune efficacité thermique. Donc on essaie de leur apporter des vêtements, un peu de nourriture à boire, voilà, pour les retaper. Et ensuite de là, on les conduit jusqu'à Briançon où ils sont accueillis au refuge solidaire, qui va d'abord les laisser se reposer et puis leur donner un petit peu des indications sur leurs droits. S'ils ont besoin de rencontrer un médecin. Donc on organise une solidarité d'accueil pour ces migrants, donc sur Briançon.
Et ce jeune homme, par exemple, il vous a dit quelque chose quand il est arrivé? Il venait de quel pays? Comment vous communiquez avec ces jeunes?
Alors ils sont à 99% francophones, donc on n'a aucun problème de communication directe. Ensuite, à l'arrivée, là, on ne les questionne pas trop, parce qu'en général, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils savent pas toujours si on est des bons ou des méchants, hein. C'est l'observation qu'ils nous ont faite. Hein. L'an passé, je me rappelle avoir accueilli un groupe comme ça en montagne, où l'un d'entre eux était persuadé que j'étais un policier et que j'allais les arrêter. Parce que bon, effectivement, je suis grand, j'étais habillé en noir, je pouvais être un peu effrayant. Et tant qu'il n'a pas été arrivé à Briançon et mis au refuge, il était très très inquiet. Voilà, donc nous, on essaie de ne pas trop les questionner, on les accueille, c'est tout. Voilà, on est là pour ça, on est là pour les secourir, pour les accueillir. Et puis après, c'est une autre organisation qui les prend en charge.
Et vous disiez que ce jeune, il avait deux doigts gelés. Donc, c'est-à-dire que quand vous l'avez vu, il marchait dans le noir tout seul? C'était de nuit ou c'était de jour?
Alors, nous, c'est toujours de nuit, les maraudes. Alors, lui, celui qui a les doigts gelés, il était assis par terre. Il était fatigué, épuisé. On l'a vu, on était à 3 mètres quand on l'a vu. Hein. Il était au pied d'un arbre. Après, on en a récupéré 3 autres qui étaient enfin, 2 qui étaient plutôt bien et un troisième qui était très, très, très fatigué, que j'ai récupéré beaucoup plus haut. Voilà, donc il y a souvent la fatigue, il y a la déshydratation. Il faut savoir que la déshydratation, c'est vraiment un très très gros problème pour eux parce qu'ils n'ont aucune notion. Et puis en général, ça peut faire 2 ou 3 jours, ils ont mal mangé ou très peu mangé. Donc même si c'est des jeunes qui sont solides, bon voilà, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Et on essaye le plus vite possible, dans les meilleures conditions, de les remettre en état. Donc nous, sur le terrain, pour ce qu'on peut faire, et puis après au refuge solidaire à Briançon.
Et après le refuge solidaire, c'est des personnes qui poursuivent leur route ou qui veulent rester, qui entament une demande d'asile, ou comment ça se passe pour ces jeunes?
Alors à Briançon, c'est une petite ville, hein, 12 000 habitants, on ne peut pas accueillir tout ce monde-là, c'est pas possible. Et puis ensuite, ils n'ont pas nécessairement envie de rester. Surtout l'hiver, les conditions de vie l'hiver sont quand même difficiles en montagne, et pour eux, c'est un monde complètement étranger. La majorité veulent aller ailleurs, en France. Les mineurs sont normalement pris en charge par le département des Hautes-Alpes, parce que c'est la légalité. Et les majeurs sont demandeurs d'asile. Donc pour faire leur demande d'asile, il n'y a pas de structure administrative à Briançon. Il faut qu'ils aillent ou à Marseille, ou à Grenoble, ou Paris, ou d'autres villes qui ont la possibilité d'accueillir ces demandes d'asile. Donc nous, on leur explique leurs droits, et puis on les aide à trouver un transport. On ne leur paye pas le transport, on n'a pas les moyens, on les aide à trouver un transport. Mais il faut bien dire que certains sont partis depuis 3 ou 4 ans et que le passage à Briançon, c'est 2, 3 jours, pas plus. Donc c'est vraiment un tout petit morceau de leur voyage. C'est spectaculaire à cause du passage de ce col. Mais ce qui est très important, c'est tout ce qui s'est passé avant. Le départ de leur pays d'origine, tous les problèmes qu'ils ont rencontrés en traversant différents pays difficiles. Et après, le problème, c'est après, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Est-ce qu'ils vont avoir droit à l'asile ou pas ? Voilà, comme ils viennent de pays qui ne sont pas en guerre, il est dit que ce sont des migrants économiques, mais migrants économiques, ça ne veut rien dire, parce que la variété de leur situation individuelle est telle qu'on peut avoir rencontré des gens qui, s'ils retournent chez eux, c'est la catastrophe pour eux. Voilà, donc il y a une longue réflexion à avoir sur ce que sont ces migrants économiques et est-ce qu'ils sont réellement des migrants économiques ou des migrants de la misère. Et là, il y a à réfléchir, et notre pays a à réfléchir là-dessus et à ne pas renvoyer systématiquement les gens qui ne viennent pas de zones de conflit.
Là, par exemple, c'était de quel pays quand vous parlez de ces personnes qui fuient plutôt pour des raisons économiques ?
Alors, disons que la majorité des gens qui sont arrivés cette année, ce sont des Guinéens. On est à 53-54% de Guinéens. On a après le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire, avec une quinzaine de pourcents. Alors la Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il y a quand même des problèmes de conflits ethniques qui sont quand même assez sérieux. Ensuite, on va avoir le Mali. Bon, le Mali, c'est pas la peine de faire un dessin. Le Sénégal, le Cameroun. Puis après, je crois qu'on a 36 pays d'origine. Bon, certains pays, on n'a qu'une personne. On a quand même beaucoup de gens qui sont ce qu'on pourrait appeler des migrations naturelles et normales. Chaque situation est différente de toute façon.
Et la Guinée, pourquoi ils ont fui, ils ont pris la décision de fuir leur pays ?
Ben, c'est parce qu'ils n'ont aucun avenir dans leur pays. Ils ne voient pas d'avenir dans leur pays. La Guinée est un pays qui ne devrait pas être dans l'état où il est. Bon, c'est pas moi de. C'est le premier exportateur mondial de bauxite. C'est un pays qui, sur la côte, a quand même des possibilités d'agriculture qui sont très fortes. Et on a toute la région du nord de la Guinée, la région montagneuse. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu laissé à l'abandon par l'État. Je pars là maintenant au Sénégal. J'espère rencontrer des officiels guinéens pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Mais bon, on le sait à peu près quand même.
Vous poursuivez votre engagement jusqu'à aller dans les pays d'origine de ces jeunes que vous rencontrez dans votre ville d'origine, dans le Briançonnais.
J'ai encadré des formations au Sénégal il y a 17 ans à peu près, et j'ai gardé des contacts amicaux très très serrés avec certains de mes anciens stagiaires. J'y vais pour les rencontrer, et en fait on a, avec un de mes anciens stagiaires, qui a monté une conférence pour expliquer un petit peu aux jeunes sénégalais et aux jeunes guinéens, si on peut en faire venir, puisque là où je vais, c'est sur la frontière, on est à 5 km de la frontière guinéenne, pour essayer de leur faire comprendre que la migration, c'est peut-être pas une très bonne solution pour eux. Je ne suis pas sûr que je sois vraiment écouté, mais bon, il faut essayer. Ensuite, si effectivement je peux rencontrer des élus guinéens ou sénégalais sur cette problématique, ce sera avec grand plaisir, surtout pour essayer de comprendre. Je n'ai aucune prétention de faire changer les choses, aucune, il faut être réaliste. Hein. Mais essayer de comprendre les choses, et puis peut-être, pourquoi pas, d'arriver à transmettre cette éventuelle compréhension à des élus français pour aider dans cette grande aventure.
Comment vous est venue aussi cette envie, en tout cas, de porter secours ? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est peut-être historique dans votre région, à Briançon ? Est-ce qu'il y a une histoire par rapport à la migration, justement ?
Oui, évidemment qu'il y a une histoire de migration. C'est un passage très important entre l'Italie et tout le Maghreb, un peu moins marqué avant, mais beaucoup marqué aujourd'hui. Il y a eu les migrations italiennes très importantes pendant l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale. La France est un Finistère, donc tous les pays, tous les hommes qui vont vouloir se déplacer et aller voir ce qu'il y a plus loin, ils vont buter, ils vont arriver en France. Et ça existe depuis des dizaines de milliers d'années. Hein. Dès le néolithique, même au paléolithique, l'homme arrivait et butait sur cette frontière naturelle qui sont les côtes françaises. Depuis très longtemps, on a une migration qui arrive, qui est plus ou moins organisée. On peut dire que depuis 2003, il y a une véritable organisation sur le Briançonnais. Mais le passage de 1 à 2 migrants par mois à aujourd'hui, avec certaines personnes de pointe, à 25-30 par jour, on a changé complètement de phase. Alors pourquoi je me suis engagé ? La première chose, je crois, et la principale, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait des gens qui dorment dehors chez nous. C'est d'abord, une personne qui dort dehors en ce moment, il est mort le matin. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas dormir dehors sans équipement spécifique de haute montagne. Donc c'est pour ça que, d'une part, le côté maraude, récupérer des gens en montagne pour pas qu'ils dorment en montagne, et deuxièmement, le refuge solidaire qui va leur permettre de dormir à l'abri, au chaud, d'être nourris. Et il faut savoir que sur le Briançonnais, on est à plus de 400 personnes qui interviennent plus ou moins sur ce problème migratoire. sur une ville de 12 000 habitants, bon, une agglomération qui va devoir regrouper à peu près 20 000 habitants, ce qui est donc considérable. Hein. Il y a deux choses qui nous posent problème. C'est la pression policière, d'une part, et puis d'autre part, le manque de place pour les migrants pour ce passage de 2-3 jours sur le Briançonnais.
Est-ce que vous dites le problème avec les forces de l'ordre sur place, c'est quoi ?
Alors, quand on récupère des gens au col Humont-Genèvre ou quand on arrive sur la route au col L'Échelle, il faut les transporter, ces gens. Et les forces de l'ordre, sur mission du ministère de l'Intérieur, considèrent que si on transporte des gens, on retrouve un texte de 1936 ou 37, je crois, qui est l'aide aux personnes en situation irrégulière. Sauf que nous, on conteste cette situation irrégulière parce qu'ils sont ou mineurs, donc la minorité est prioritaire, ou demandeurs d'asile. Donc normalement, on ne devrait pas être contrôlé. Mais on est contrôlé, on a été une quarantaine à être invités à témoigner à la gendarmerie pour dire ce qu'on faisait, pourquoi on ramenait des gens dans nos voitures. Voilà. Et on est susceptible d'être judiciable, on va dire. Voilà.
Oui, comme on l'a vu avec différentes personnes qui ont porté secours à un moment donné à des jeunes entre l'Italie et la France, notamment la vallée de la Roya. Vous, en tant que citoyen, vous décidez de continuer coûte que coûte. C'est quoi votre rôle ?
Mon rôle, il est comme tous les gens de notre association. C'est la priorité, c'est qu'il n'y ait personne qui dorme dehors. Voilà. Je n'ai pas d'autre rôle, je n'ai pas de rôle politique, je ne suis pas élu. Je suis en contact, comme d'autres entre nous, en contact avec des élus pour essayer de réfléchir à ça. Déjà, pas que de contester. Enfin, moi, personnellement, je suis plus pour essayer de réfléchir et de convaincre plutôt que de contester sans solution. On sait très bien que cette problématique est extrêmement importante, qu'elle engendre une partie de l'Afrique. L'Asie, ça commence, et puis on va avoir d'autres pays. On ne peut plus parler de crise migratoire. On n'est plus dans une crise. On est dans un phénomène migratoire qui est parti pour de nombreuses années. Et il est évident que les hommes politiques au plus haut niveau, hein, je pense à M. Macron, se retrouve confronté à des problèmes qui sont très complexes et qu'on ne peut pas résoudre en claquant dans les doigts. Et il faut avoir une certaine réflexion pour ne pas être dans la contestation brute et bête. Il faut essayer de construire et on doit construire ensemble. Et je pense que nous, associatifs, nous aidant les migrants, on doit être, et je pense qu'on va l'être, qu'on est écouté un petit peu quand même pour essayer de faire avancer les choses. Autre gros problème, c'est que ce problème est un problème européen et que le silence très lourd de l'Europe sur ce sujet est quand même assez grave.